comme le nombre d'abonnés en une semaine à la chaîne YouTube FB Direct, François Bayrou Direct. Lancer une chaîne YouTube en plein été sur le budget, Franck Louvrier, c'est un peu osé, non ?
Oui, c'est osé, mais c'est assez audacieux, parce que je pense qu'il avait pas beaucoup d'opportunités pour pouvoir s'exprimer avant le calendrier parlementaire, qui est celui du vote du budget. Il sait qu'il est mis en danger sur ce sujet. Et donc, il a utilisé une mode de communication qui, d'une façon ou d'une autre, remplace un peu la tournée des plages quand on faisait de la politique il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on utilise là le podcast, et le podcast permet d'être réécouté. Alors après, la forme peut être critiquée, mais je trouve que la méthode n'est pas idiote, parce qu'elle permet justement d'essayer de pouvoir dire qu'il a quelque chose à faire et quelque chose à dire dans cette période-là pour essayer de convaincre les plus sceptiques, qui sont généralement, en plus, ceux qui sont assez jeunes. Et c'est vraiment la cible.
Alors Stéphanie Vauchy,
a été coupé, parce que moi j'en ai vu certains quand même, ouais. Des commentaires sur les 5 épisodes.
Ça a été coupé au début.
Ça a été coupé là, ça a été remis. Je sais pas si c'est une approche à l'ancienne, mais c'est une approche qui est manifestement, oui, descendante. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il a l'air de dire de communication directe avec son électorat ou avec des personnes qu'il chercherait à convaincre, c'est un dialogue unilatéral, si on peut dire. C'est quelque chose où il s'exprime face caméra de manière très traditionnelle et il essaie de défendre ses perspectives et les choix et les méthodes qu'il a fait. Mais après, on voit bien dans les commentaires qui sont réapparus que sur l'ensemble des épisodes, ce sont des commentaires extrêmement critiques, quoi.
Oui, Alexis Évrier, pour élargir un petit peu le propos, est-ce que...
Versa et même les anciens médias comme les médias audiovisuels, même comme les médias papier, ouvrent des formats de ce type pour s'adresser aux nouvelles générations. On voit dans les écoles de journalisme que nos étudiants, ils sont rompus à l'usage de ces nouvelles plateformes. Et donc, il est logique de se tourner vers ces nouveaux médias. Et je comprends tout à fait le choix de François Bayrou. Le problème dans son cas, c'est qu'il aurait mieux fait de faire la tournée des plages, en réalité.
À l'ancienne, justement, c'est ça.
Ah oui, c'est quelqu'un qui a un parcours d'élu local irréprochable de ce point de vue, qui connaît la population, qui est très à l'aise dans cette relation directe. En revanche, il ne maîtrise pas du tout les codes d'une communication sur YouTube, d'où le fait qu'effectivement, les commentaires aient été coupés dans un premier temps, alors que la seule raison d'être de ces médias, c'est l'interaction avec le public. Et puis, on voit bien qu'il ne maîtrise pas cette façon de faire et qu'il est à l'ancienne, dans un format qui est moderne. Donc, c'est constamment décalé et ça se retourne contre lui. Même si je crois que sur le temps long, lui, il est plutôt dans la logique de... presque une logique de testament, c'est-à-dire qu'il sait que ça survit
peut-être,
politique,
oui.
Et assez brève, et donc il essaye de montrer que jusqu'au bout il aurait fait un effort de pédagogie.
Franck Louvrier, est-ce que quand vous avez conseillé Nicolas Sarkozy, quand il était président, c'est-à-dire que les réseaux sociaux arrivaient à ce moment-là, est-ce que vous avez dû un peu forcer justement Nicolas Sarkozy à l'époque à s'y mettre ? Est-ce que
d'abord, on a été forcé par les faits. Casse-toi pauvre con, c'était il y a 17 ans.
Ouais.
Et c'était pas un smartphone, c'était une vidéo qui avait été captée par une agence vendue aux Parisiens.
Donc, ça vous voyez, tour ensuite dans les
faits. C'était le début justement de la présence et de la viralité, ce qu'on appelait la viralité. Et nous, on essayait de lutter ça avec une dépêche AFP. Ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y a bien sûr un domaine particulier qui est la viralité et donc les débuts des réseaux sociaux à l'époque d'Internet. Donc je pense qu'il ne faut rien négliger. D'abord, quand vous êtes conscient en communication, il n'y a aucun média qu'il faut négliger, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, quelle que soit son audience, parce qu'elle s'adresse toujours à des personnes différentes des autres. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, que ce soit un format court, que ce soit un format long, alors malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de formats courts. Ce qui ne permet pas de tester la qualité des hommes et des femmes politiques. Vous savez, moi, je suis d'une génération où il y avait 100 minutes pour convaincre. 100 minutes pour convaincre, c'était très difficile. La preuve, c'est qu'à la fin, ils n'avaient plus de clients. Et même des journalistes d'aujourd'hui, comme Caroline Roux, par exemple, qui vous expliquent qu'elles ne trouvent plus personne pour débattre. Ils se protègent. Ils ne veulent pas se mettre, je dirais, dans le feu du débat. Et donc, ils se protègent en faisant des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, vous les maîtrisez. Quand vous coupez les commentaires, il n'y a plus de débat. Donc, l'affaire est réglée.
Maintenant, c'est du top d'un monde pour convaincre.
Et parmi les...
Au début, tout le monde a salué la modernité de sa communication. Or, il y avait déjà des biais, il y avait déjà des dangers qu'on voit bien dans un livre qui s'appelle « Un personnage de roman » de Philippe Besson, l'écrivain qui a accompagné sa campagne de 2017, et qui raconte les coulisses. Et le discours d'Emmanuel Macron à l'époque, c'était déjà d'évincer les journalistes pour la phrase « c'est il faut une relation directe désintermédiée au peuple ». Et c'est à ce titre qu'il avait choisi de miser sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est dangereux. Parce que moi, je comprends tout à fait qu'on s'appuie sur ces nouveaux outils de communication, mais pas qu'on se passe des anciens, et notamment de ce qu'il y a de plus légitime d'un point de vue médiatique, qu'est la confrontation avec les journalistes. Et quand on essaye de contourner la médiation journalistique, alors on est dans une dérive. Et c'est ça qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron. Pas le côté un peu maladroit de certaines séquences, c'est le fait qu'il ait préféré parler à McFly et Carlito plutôt que de parler à des journalistes. C'est ça qui est dangereux.
Enfin, on l'a peut-être un petit peu oublié parce qu'il y a aussi une histoire malgré tout de la communication politique numérique et des réseaux sociaux, mais les séries et notamment les web-séries, nos politiques les ont faites, c'est-à-dire en 2012, si je me souviens bien, Jean-Luc Mélenchon avait lancé sa web-série qui s'appelait d'ailleurs En Marche. Lors des dernières campagnes présidentielles, Emmanuel Macron a aussi sa web-série qui s'appelait Le Candidat, donc il y a des proximités.
Jean-Luc Mélenchon aussi.
Jean-Luc Mélenchon aussi, donc l'idée de faire une web-série pour essayer de véhiculer une image plus authentique, plus proche du peuple, candidat presque entre guillemets ordinaire, ou en tout cas dans lequel on peut avoir confiance, c'est quelque chose que l'on fait sans trop de difficultés. Mais on retrouve dans ce que vous avez montré un petit peu ce que disait Alexis Lévrier sur l'idée que l'on puisse effectivement se passer d'une médiation humaine, mais qui est remplacée de fait par une médiation technique, c'est-à-dire que la personnalité politique va vouloir s'adresser directement à tout ou partie de son électorat. Mais c'est oublié, enfin je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée des shorts, enfin du fait qu'on est désormais dans un moment où les interventions sont courtes, parce qu'on voit apparaître quand même, alors pour le meilleur et pour le pire, des nouveaux médiateurs, notamment sur YouTube, ou des personnalités avec lesquelles les personnalités politiques peuvent discuter et peuvent être interviewées. Moi, je pense à des choses aussi connues qu'Hugo Décrypte, ou sur Twitch, quelqu'un comme Jean Massier ou Samuel Etienne, qui ont pu, lors des campagnes électorales et même après, interviewer aussi des acteurs politiques. Donc il y a la propagande, on va dire, que font des acteurs politiques, et puis après il y a aussi d'autres espaces numériques où les acteurs politiques peuvent s'exprimer plus longuement s'ils le veulent.
Alors la question aussi, faire disparaître votre métier,
qui
est de vérifier la formation, parce que l'essence même d'un journaliste, c'est quand même de vérifier l'information et d'être d'une façon ou d'une autre le gage d'une information de qualité.
Alors là, on l'a vu avec Javier Milei, on sait que ça vient bien de Javier Milei.
Voilà, attention à ceux qui ne le sont pas, et ceux qui le sont, moi je ne suis pas là pour défendre les journalistes. Mais en tout cas, je pense que vous êtes non, parce que c'est pas mon rôle, mais je veux dire, vous êtes là des interfaces, et c'est toute la différence entre la communication et l'information.
Et juste, alors d'après vous, est-ce que ça rapporte des voix? Simplement.
Bien sûr que ça permet de rapporter sans doute des adhésions, ce qu'on appelle les followers, des gens qui vous suivent, mais c'est pas pour ça que ça fait l'opinion. C'est des moments de débat. Et je pense que le fait qu'on ait des formats courts comme des formats longs, le livre n'est pas encore mort, et le livre politique non plus, par exemple. Parce que vous prenez une heure et demie, à peu près, d'une personne pour qu'il vous lise pendant cette période-là. Alors que quand vous êtes sur Twitter,
Vous le vérifiez ça localement, l'adhésion?
Mais c'est essentiel, parce que vous voyez bien que quand vous avez un intérêt pour la politique, vous pouvez regarder les réseaux, mais vous avez besoin aussi un peu de matière. Et la matière, c'est long, c'est pas le court, parce que le court, ça marche pas. Vous pouvez pas en 1 minute 30 expliquer votre programme, quel qu'il soit.
Alexis Lévrier, on le voit
tout, et je crois qu'ils misent tous un petit peu là-dessus maintenant. On voit que les partis les plus radicaux en tirent vraiment une utilisation très forte et assez efficace, hein, il faut bien le reconnaître, que ce soit donc dans la gauche radicale, les insoumis ou à l'extrême droite, et notamment parce que ces partis se construisent contre les médias traditionnels. Donc ça nourrit leur discours. Moi je me souviens d'un « C'était à vous » en mars 2019, où on avait Nicolas Dupont-Aignan qui était invité, donc tout ce discours qui consiste à dire qu'ils sont évincés des médias traditionnels est faux, c'est une posture, mais en fait il avait choisi de fabriquer un moment de télé contre Patrick Cohen, bien avant Rachida Dati, il avait déjà testé ça, et il l'avait qualifié de serviteur du pouvoir. Et évidemment, Anne-Sophie Lemoine avait mis fin à l'interview, et directement derrière, il était allé dans la rue, il avait fait un live sur Facebook pour dire « Regardez, j'ai affronté le tribunal médiatique et j'ai dû être évincé ». Donc tout ça est construit. C'est une façon, même quand ils vont dans les médias traditionnels, de dire « Nous sommes des victimes de ce système, et donc nous le contournons avec... » des outils comme Facebook, comme X.
Les questions, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste avant.
Rapidement, parce que...
L'engagement. Non, je voudrais juste dire une évidence qui est de ne pas confondre l'engagement qu'on peut mesurer avec des métriques, hein, le nombre de followers, le nombre de vues, le nombre de partages, etc., et l'engagement réel pour un candidat ou pour une personnalité politique, parce que les deux ne sont pas synonymes, quoi. Et donc, je crois qu'il y a quand même un enjeu pour les personnalités politiques, c'est d'avoir une grande visibilité, donc d'avoir un très grand nombre de followers, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils sont, mais c'est aussi... des enjeux qui sont liés à leur positionnement dans le champ politique.
Alors, sur le côté,
quand même que les électeurs sont des personnes âgées aujourd'hui. Hein. Il y a 50% sont des personnes âgées aujourd'hui. Hein. Il y a 50% des abstentionnistes et les électeurs sont des personnes âgées. Et ce n'est pas ceux qui sont les plus friands des réseaux sociaux. Donc il faut faire aussi attention à cette lentille un peu déformante de toujours se dire tout passe par les réseaux sociaux. Non, la presse quotidienne régionale est importante.
Ouais,
elle s'adresse à des électeurs.
Oui, mais le but de Mélenchon, c'est d'aller chercher cet électorat.
Pourquoi les partis extrêmes, justement, utilisent énormément? Parce qu'eux, ils n'ont pas toujours accès, en tout cas au début de leur histoire, ils n'ont pas toujours accès aux médias traditionnels. Et donc, ils utilisent justement ces réseaux où, qui sont accessibles pour tout le monde, par tout le monde, pour pouvoir justement pénétrer dans le monde politique.
Alexis Lévrier, est-ce que du coup, quand on veut toucher comme ça des jeunes qui parfois ne votent pas encore, c'est une manière finalement d'infuser dans les mentalités?
Oui, et puis encore une fois, à condition que ça s'accompagne de l'acceptation de la contradiction journalistique, le fait de s'adresser aussi à des médias traditionnels, moi j'y vois pas du tout un problème. Et à mon avis, c'est une évolution qui est inéluctable. Et encore une fois, dans les écoles de journalisme, on voit aussi, et d'ailleurs le monde, les grands médias traditionnels ont tous misé sur ces formats-là. C'est une évolution. Dans l'histoire des médias, ça se répète constamment. C'est-à-dire que les évolutions technologiques sont assimilées par les médias traditionnels et ils s'enrichissent de ces évolutions. Donc pour moi, c'est pas du tout un souci. Le problème, c'est quand on en arrive à des postures, là, des séquences qu'on voit sur de 20 secondes, elles sont calculées pour faire du buzz, pour faire du clash. Et il faut se souvenir que quand Emmanuel Macron parle de désintermédiation, il a tort. Il y a bien, ce sont des médias. Donc il y a des règles. Simplement, ça ne sont pas les journalistes qui les fixent. Ce sont ces plateformes et elles sont calculées pour faire du buzz. Et donc, quelque part, il faut accepter les règles qui sont fixées par ces plateformes, lesquelles, il faut le rappeler, se sont toutes ralliées pratiquement aujourd'hui à Donald Trump et à l'extrême droite.
Stéphane Yoji. Plus forcément portée par des journalistes en tant que tels, mais vous la trouvez justement dans la section commentaires, avec des individus plus ou moins ordinaires qui prennent la parole, qui s'expriment, qui mettent en visibilité des propos qui sont contradictoires et qui ont une visibilité beaucoup plus grande que ce que l'on peut voir dans les médias traditionnels, où ils n'ont pas accès quand même. Donc effectivement, il y a un travail à faire pour les journalistes de garder leur métier, mais il y a aussi le fait de regarder ce qui se passe dans les espaces numériques avec des individus, on va dire, qui n'ont pas accès à l'espace public traditionnel, qui prennent la parole et qui peuvent être en mesure de porter la contradiction, y compris en la documentant, en la sourçant, en faisant référence à des articles, à des interventions antérieures. Et c'est ça aussi auquel on ne pense pas toujours, c'est que le web, c'est une archive politique, c'est une mémoire.
Elle est exposée à l'information et aussi aux mouvements qui veulent pousser leurs idées, notamment dans les commentaires, parce qu'on le voit souvent. Moi, il m'arrive, par exemple, comme maire, de faire des entretiens Facebook où j'ai les commentaires. Je vois bien qu'il y en a certains, c'est les mêmes, c'est une récurrence, et c'est ceux qui sont là pour m'attaquer ou pour dire que c'est très bien, hein, dans les deux sens, mais voilà.
Et dans l'idée de rester...
En fait, il a circulé sur d'autres médias. On voit bien que ces JT s'adaptent, ils isolent même des séquences qui sont destinées aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'éternelle histoire des médias qui fait que rien ne disparaît, tout se réinvente éternellement.
Et c'est ça sans doute l'enjeu, c'est le rôle des communicants, c'est là leur métier, l'essence même de leur métier.
Allez.